Bonjour Isabelle Bordry.
Bonjour Nicolas.
Bienvenue, fondatrice de Ritensi, un éditeur de logiciels de protection des consommateurs. Jean-Marc Daniel, bonjour.
Bonjour.
Professeur à l'ESCP, vous avez publié les nouvelles leçons d'histoire économique, dette, inflation, transition énergétique, travail, chez Odile Jacob. Je reviens dans un instant sur la soirée de ce soir. Bonjour Philippe Mutrici.
Bonjour.
Il est directeur des études de BPI France et donc vous êtes venu avec une étude de BPI sur l'intelligence artificielle et les PME. Vous avez, je crois, aussi des éléments sur le budget.
Sur le budget et puis surtout sur l'impact de la dissolution.
À l'impact de la dissolution. Théâtre de poche, again, tous les lundis, 21h. À quoi faut-il s'attendre en économie ? Causerie, pensée et interprété par Jean-Marc Daniel.
Absolument, oui, j'invite des gens à venir. Ce soir, il y a encore de la place, c'est le lundi de Pentecôte. Pour les autres lundis, il y a aussi de la place, mais il faut quand même se précipiter. De toute façon, il faut se précipiter. Et puis, on commence avec Rousseau, Sandrine et Jean-Jacques, et on finit avec quelques conseils pratiques.
Il y en a pour un mois à peu près. Hein.
Oui, ça durera jusqu'au 7 juillet. Le théâtre de poche ferme le 13 juillet. Puis voilà. Après, il y aura une nouvelle saison où le théâtre de poche prendra sa vie avec d'autres. C'est du théâtre. Il n'y a pas que des leçons d'économie.
Vous n'avez pas prévu de reprendre en septembre ?
Non, pas en septembre. On verra. On fera le point, mais pas en septembre.
Il y aura quand même eu au moins 3 mois.
Hein. Absolument.
Bon. Ce soir, donc, c'est à 21h au théâtre de poche à Paris. C'est boulevard du Montparnasse, pratiquement à l'angle avec la rue de Rennes. Jean-Marc Daniel sur scène. Je vais commencer avec vous, Jean-Marc. Le corps. Alors, j'ai pris ce matin la défense de la CGT. Parce que, on me dit, la CGT a claqué la porte du conclave. Enfin, on a demandé aux partenaires sociaux il y a des mois, sans tabou, on remet tout à plat. Système de retraite. Et on leur sort globalement la messe édite une semaine avant la fin. Enfin, de qui se moque-t-on? Non, objectivement, c'est pas la peine que les gens se réunissent pendant des heures et des heures avec des réunions jusqu'au 17 juin pour clore finalement la partie dialogue social avec un rapport qui met fin à tout débat.
Oui, je suis assez d'accord avec cette défense de la CGT, même si...
Non, mais la CFDT aussi, mais voilà, c'était pour provoquer...
Ça me perturbe profondément, mais effectivement, il y a une question de forme. Sur le fond, après, la CGT a des positions que je ne partage pas, mais sur la forme, c'est effectivement à la fois discourtois et inélégant, et ça décrédibilise toute cette opération de conclave. Ça lui donne d'ailleurs sa vraie dimension, c'est-à-dire il s'agissait de gagner du temps pour essayer de faire en sorte de ne pas avoir à prendre de décision. Alors, on peut considérer, on en reparlera avec la dissolution, que, en fait, notre Premier ministre est un héritier direct de la 4e République. Il a tenu plus longtemps qu'un président du Conseil de la 4e République. La moyenne, c'était 6 mois. Il a tenu ces 6 mois, et la technique, c'était le président Henri Queuil qui l'avait énoncé. C'est-à-dire, il s'agit de ne prendre aucune décision, il s'agit de ne jamais se positionner. Et puis, Clémenceau le disait, dès qu'on veut enterrer un problème, on crée une commission, et puis c'est réglé. Bon. Donc, il est véritablement l'héritier de la tradition républicaine à l'ancienne. Alors, après, sur le fond, moi, ce qui me frappe...
Je rappelle les préconisations. Alors, juste, Jean-Marc, pour que, quand même, on soit précis. Donc, sur les éléments budgétaires, ils anticipent un déficit 2 fois moins élevé en 2030 que prévu, plus à 0,4 du PIB, mais à 0,2, ce qui ferait un peu plus de 6,5 milliards d'euros. Mais un déficit à 1,4% du PIB en 2070. Bon, pas facile d'estimer le PIB de 2070. Mais donc, en tout cas, la trajectoire, si rien n'est fait, est déclinante en termes de financement. Et donc, la préconisation, c'est qu'il faut aller à 64,3 en 2030, à 65,9, pratiquement 66 en 2045, et 66 ans et demi en 2070 en termes d'âge légal.
Oui, alors 2070, il y a quand même beaucoup de paramètres qui vont jouer. Donc, il y a la croissance avec la productivité. Il y a aussi l'évolution démographique. C'est-à-dire qu'on est quand même, les gens qui travailleront en 2070, c'est des gens qui seront nés qui quand entreront sur le marché du travail, seront nés en 2050. On ne sait pas combien il va naître de gens en 2050. On voit qu'il y a plutôt une évolution de la fécondité qui est plus alarmante que ce qu'on avait anticipé. Donc là, il y a des hypothèses sur ce paramètre-là qui sont plus difficiles à faire.
Sinon, travailler plus.
Voilà. Alors moi, ce qui me frappe pour conclure, c'est quand même qu'il y a une sorte... Alors, contrairement à ce que dit la CGT, il commence à y avoir une prise de conscience que ce dont manque le pays, c'est de travail.
Ça, c'est juste.
De quantité de travail. Et donc, je permettrai, même si j'ai beaucoup d'amitié et d'affection pour eux, de souligner les évolutions de 2 personnages clés. Donc, Gilbert Sept, qui est à la tête du corps et qui était le principal conseiller de Martine Aubry dans l'opération des 35 heures. Donc, manifestement, il a compris compris qu'on manquait de travail et que les 35 heures, c'était pas forcément une idée de génie. Ce qu'avait d'ailleurs dit le président de la République quand il était ministre de l'économie dans un discours célèbre où il disait « ce n'est pas en diminuant la quantité de travail qu'on améliore le bien-être d'une société ». Donc,
je vous confirme que Gilbert Sept aujourd'hui est un chantre du travailler plus et de l'augmentation du taux d'emploi. Et quand donc il a effectivement clairement changé d'avis.
Et quant à notre gouverneur de la Banque de France qui dit aussi
François Villeroy de Galloz
qui dit aussi qu'il faut travailler plus, il était le bras droit de Dominique Strauss-Kahn qui est le promoteur, le défenseur dans les années 90 des 35 heures.
Donc alors il était plus lui sur le terrain un peu stratégico-politique que vraiment metteur en scène.
Chez Dominique Strauss-Kahn, il y avait une forme d'habileté. Voilà. C'était une façon de se rapprocher de Mitterrand qui avait dit on a tout essayé mais on n'a pas essayé la baisse du temps de travail. Donc il avait dit oui. Donc contre le chômage, on peut essayer la baisse du temps de travail, sachant que tout le monde sait d'expérience et de réflexion que ce n'est pas en réduisant la quantité de travail qu'on résout le chômage.
Comment vous réagissez? Alors Isabelle Borne, Philippe, allez-y, Philippe, commencez. Alors c'est vrai que le rapport du corps a fuité, tout ça n'est pas totalement encore tamponné, validé, mais enfin on voit bien l'état d'esprit du travailler plus qui n'était d'ailleurs pas une surprise.
Moi j'aurais juste un commentaire très bref.
Allez-y.
Et par rapport à Jean-Marie Daniel qui cite la quatrième, je crois qu'un autre homme politique, ou peut-être était-ce le même, qui disait qu'il n'y avait pas de problème, qu'une absence de solution...
Oui, c'est Henri Cueil qui disait ça.
C'était bien le même. Hein.
Oui, voilà. C'est Henri Cueil.
Qu'une absence de solution ne finisse pas résoudre. Mais ce n'est pas le cas pour les retraites. L'absence de solution sur les retraites ne résoudra pas le problème. Bref, je ne commente pas du tout le côté calendrier, est-ce que le corps doit sortir un rapport maintenant ou pas. Là, je dirais que c'est un petit peu plus politique. Ce qui me frappe surtout, c'est cette obstination sur la mesure d'âge. Et je pense qu'en fait, il y a plusieurs solutions à mettre en œuvre. Il n'y en aura certainement pas une unique qui résoudra tout. En revanche, c'est vrai que sur la mesure d'âge, quand on compare avec les autres pays, on est l'un des derniers à être resté à 62, puis maintenant 64, on y va difficilement. La plupart des pays en Europe sont à 65, voire 67.
Clairement, mais la borne d'âge est devenue le marqueur politique. Alors certains considèrent que vous pourrez utiliser la durée de cotisation, qui provoque toujours moins d'émotions, mais qui n'a pas les mêmes effets immédiats en termes d'équilibre comptable du système. Isabelle Borderie.
Moi, ce qui me surprend à chaque fois, c'est l'aspect démographique. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, quand on regarde les chiffres depuis maintenant 50 ans, le nombre de retraités a multiplié par 5, et la population active a un petit peu progressé, mais pas tant que ça. Et il semblerait qu'effectivement, en 2070, qui est le chiffre qui ressortait du comptoir, la démographie va véritablement baisser et donc le nombre d'actifs va largement diminuer. Donc, face à ces chiffres...
Il faut les rappeler, Isabelle. Ils sont têtus.
Les gens continuent à... alors, ceux qui changent d'avis, je pense que ce sont des gens intelligents. On dit qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, donc c'est formidable. Mais les chiffres sont quand même têtus et le manque de décision des uns et des autres va effectivement nous mettre dans la difficulté.
Bon, il faut rappeler que le corps ne prend pas de décision, il fait des recommandations, c'est un choix politique. En tout cas, votre ami Gilbert Sept, il est quand même maintenant recta. Hein. Il dit oui, il faut reculer l'âge de départ à la retraite. Il dit qu'il faut supprimer l'abattement de 10% dont bénéficient les retraités qui sont imposables à l'impôt sur le revenu. Et il défend même le principe de la TVA sociale, mais sur la partie cotisation payée par les employeurs de manière à baisser le coût du travail et améliorer la compétitivité.
Mais je pense qu'il n'y a que ça.
Il n'y a que ça quoi ?
La TVA. Capitalisation et TVA sociale.
Alors, capitalisation, là aussi, c'est beaucoup moins tabou que ça ne l'a été, la capitalisation. Il y aura probablement des éléments dans le conclave. Sur l'histoire de transférer une partie de la facture de la protection sociale sur autre chose, comme disait Éric Lombard la semaine dernière, vous considérez que c'est la seule solution, Isabelle ?
En tous les cas, c'est une solution. On ne va pas résoudre avec une recette, mais je pense que c'est plusieurs choses qu'il va falloir bouger. Donc, il y a forcément l'âge, ce qu'on évoquait tout à l'heure, mais il y a aussi la méthode de répartition qui, aujourd'hui, atteint ses limites.
Croyez qu'elle a atteint ses limites, la méthode de répartition, Jean-Marc ? Parce que c'est vrai qu'on est quasiment à un retraité pour un actif dans la fonction publique et on est à 1,7 actifs globalement par rapport aux retraités.
Oui, mais je ne pense pas que ce soit en changeant les tuyaux qu'on résoudra le problème, c'est en augmentant la richesse. Et donc, pour augmenter la richesse, je pense qu'il faut travailler davantage. Quant à la TVA sociale, moi, je suis radicalement contre. Je pense que
Pour quelle raison, principalement ?
Ça fait 30 ans que l'État s'est emparé de la gestion de la sécurité sociale.
Oui, on est d'accord.
C'était en 1995. Et donc, avec un discours qui était clair, moi, je vais gérer ça sérieusement. Or, depuis, qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'a pas arrêté de modifier le contexte de rémunération rémunération du travail, en baissant les cotisations sociales, en transférant tantôt sur l'État, tantôt sur la CSG, en modifiant complètement la réalité. Et il a créé ce que j'appelle des faux droits, ce que Jacques Rueff appelait des faux droits. Derrière les cotisations sociales, tout le monde dit il y a le coût du travail, mais derrière les cotisations sociales, il y a ce que les gens achètent comme droit à se soigner et comme droit à avoir un revenu différé quand ils seront à la retraite. Et je pense que ça, il faut leur faire payer. Je suis d'accord, c'était ce que disaient d'ailleurs les assises de la sécurité sociale qui avaient débouché sur la CSG dans les années 80. C'était de dire, la CSG, on va la prendre pour payer la politique familiale, parce que ça, effectivement, on peut considérer que c'est quelque chose qui est un peu particulier dans la protection sociale. Mais en revanche, la santé et la retraite, c'est quelque chose qu'on achète et donc on doit le payer. C'est les gens qui l'achètent qui doivent le payer, parce que sinon on va dire, écoutez, quand vous avez un appartement, vous êtes aussi obligé d'acheter une assurance incendie. Et donc c'est un prélèvement obligatoire, vous pouvez pas y échapper. Donc il faut le faire payer par la TVA. Et puis quand vous avez une voiture, vous êtes obligé de payer une assurance aussi. Votre voiture, vous l'utilisez pour travailler, évidemment, donc on va la faire payer par la TVA. Non, je crois qu'il faut dire aux gens la réalité de ce que représente effectivement ce qu'ils achètent. Et si on considère que le travail n'est pas assez rémunéré, je rappelle quand même le grand principe de Pierre Gattaz.
Tout travail
mérite salaire, mais tout salaire réclame travail. Oui. C'est-à-dire que si on veut effectivement améliorer la condition et le niveau de vie des gens qui travaillent, il faut augmenter la quantité de travail.
Oui, mais est-ce qu'on n'est pas à un moment où on a un sujet de soutenabilité, Isabelle Bandry?
Je suis complètement d'accord. Et déjà, il faudrait que les gens qui vont à l'hôpital, qui achètent des médicaments, comprennent le montant de ce que cela représente. Déjà, s'il y avait effectivement une transparence sur les coûts individuels de ce que coûte la santé, ça serait formidable. Mais je pense que ça ne suffira pas. Il faut effectivement augmenter le temps de travail. Il faut forcément plus d'actifs, ce qui est un sujet parce que ça touche à l'immigration et c'est un sujet extrêmement politique. Donc, il faut plus d'actifs. Et la population, on le souhaite tous, va vieillir plus longtemps et en meilleure santé. Donc, elle va continuer à coûter de plus en plus cher. Donc, il faut effectivement décaler, c'est ce qu'a dit le corps, il faut augmenter la population d'actifs et il faut trouver d'autres sources de revenus.
On peut considérer, c'est vrai. Alors, je suis d'accord que la TVA n'est pas la panacée et que changer la tuyauterie ne change pas la facture finale. Mais on peut considérer qu'on est arrivé à un moment où, estimer finalement que la santé relève plus de d'un bien universel et de la solidarité payée par l'impôt pourrait se défendre dans la mesure où la capacité à payer le modèle social par le travail est contrainte. Alors après, on peut dire, on peut aller vers la CSG si on considère que la TVA n'est pas le bon outil. C'est la CFDT, ce serait plutôt CSG sociale.
Et puis encore une fois, il y a cette idée qui est une idée comme quoi le travail ne rémunère pas assez. Mais le travail, c'est le juste travail, on le sait depuis le Moyen-Âge, depuis saint Thomas d'Aquin. Le juste travail, c'est celui qui est issu de ce qu'on appelle la justice commutative. C'est-à-dire qu'il y a un marché, et c'est le marché qui détermine la bonne rémunération. Et donc, il y a des métiers qui sont en tension, donc augmentons les salaires. Il y a des métiers où, au contraire, effectivement, les gens doivent fournir un travail à hauteur du salaire. Quand je lis le rapport de la Cour des comptes sur les collectivités territoriales qui dit que si les salariés des collectivités territoriales faisaient les 35 heures, on pourrait supprimer 100 000 emplois, je pense que effectivement la solution c'est pas la TVA sociale. Je pense que la solution est ailleurs. Et le travail, encore une fois, le travail, ça a rapporté non pas quand on a bidouillé les tuyaux. Quand on a créé le SMIC, c'est une de mes grandes séances dans le spectacle du lundi soir. Je rappelle que le SMIC a été créé à 3,30 francs de l'heure. C'était en 1970. Pourquoi 3,30 francs? Je rappelle, je vais pas faire, mais une anecdote, c'est que le premier ministre, c'était Jacques Chaban-Delmas. Il avait une fourchette de montants possibles et il a choisi 3,30 francs parce que ça fait 33 et qu'il était maire de Bordeaux.
Non, 33, c'est juste ça.
C'est ce qu'il a raconté. Non, mais il a raconté ça pour plaisanter. Il a dit.
C'était un homme plus intelligent, voilà, quand même.
Dommage. Donc c'était quelqu'un qui avait une certaine classe.
Jacques dommage qu'il n'ait pas été élu d'un
département. Les Bordelais sont des gens exceptionnels.
Mais vous imaginez le montant du SMIC s'il avait été élu d'un département à trois chiffres.
Exactement. Oh. La CGT avait dit c'est dommage qu'il ne soit pas maire d'Épinal.
Ben voilà.
Épinal, les Vosges, c'est 88. Et donc 3,30 francs. Bon. Donc, indépendamment de la plaisanterie et du trait d'esprit de Jacques Chaban-Delmas. Vous regardez, 3,30 francs, ça fait à l'heure actuelle en pouvoir d'achat 4,20 €. Et le SMIC est à 11,88 €. Oui, on a amélioré considérablement le destin des SMICards. Et comment on l'a fait? Pas en bidouillant les tuyaux, en faisant de la productivité.
La productivité. Mais il y a aussi des poids de prélèvement obligatoire qui font qu'il y a un écart entre le brut et le net qui n'est pas négligeable.
Oui,
mais bon, alors, Isabelle, allez-y. Oui,
après, il y a une vraie question, c'est est-ce que l'État, aujourd'hui, dans son organisation, est capable d'opérer, de gérer les fonds des retraites aussi bien que ne pourrait le faire le privé?
Ça, c'est une bonne question.
Voilà. Et ça, je pense.
Et 30 ans après
ça...
le plan Juppé, la réponse est là, à mon avis, non. L'État n'est pas capable. Mais enfin, ça, c'est une position assez radicale et personnelle.
Vous allez me dire qu'il faut des fonds de pension et de la capitalisation.
Oui.
Bon. Le truc, c'est qu'on sait que ça prend du temps, que c'est pas une recette miracle et qu'on ne fera jamais passer la pilule si on disait qu'on fait massivement de la capitalisation en effaçant massivement la répartition. Ce ne sera qu'une...
Pour faire un peu de tout.
Un peu de tout. Bon. Et vous avez vu que sur France Inter, Éric Lombard a dit qu'il n'était pas favorable à de la capitalisation obligatoire. C'était hier. Donc là encore, une fois, on n'y va pas, on ne sait pas trop. Travailler plus, augmenter le taux d'emploi, tout le monde est d'accord, c'est la solution. Bon. Mais vous savez, il y a un consensus qui pointe là-dessus, Jean-Marc.
Oui,
plus en plus. Et ce qui était inaudible il y a encore quelques temps. On pourrait d'ailleurs embrayer directement avec notre histoire de bilan de la dissolution, là, Philippe Mutricy. Après ce qu'on est en train de se raconter sur cette fenêtre de gain de temps colossal avec le conclave sur les retraites, ça fait pile un an là qu'il y a eu la dissolution. Vous en tirez quel bilan, vous ?
Il se trouve qu'avec notre partenaire Rexecode, on sort un baromètre tous les trimestres, un baromètre de conjoncture, dans lequel on a glissé en août de l'année dernière, juste après la dissolution, on a glissé une question sur l'impact de cette dissolution sur le moral des chefs d'entreprise. Mmh. Alors, pour être tout à fait précis, la question dit, est-ce que vous pensez que l'incertitude politique peut avoir un impact sur votre entreprise ? Et il y a plusieurs modalités de réponse, il y a non, pas du tout, oui, un peu, oui, beaucoup, et oui, absolument. Et en fait, on est depuis août 2024 à 90% qui disent redouter un impact sur leur entreprise.
Encore aujourd'hui ?
Encore aujourd'hui. Le dernier point de mesure, il date du mois d'avril. On est monté à 96% au début de l'année, au moment où il n'y avait pas de budget. Et là, depuis le vote du budget, ça a perdu 6 points. Voilà, donc on est quand
que 6 points.
Oui, et 8 points pour ceux qui se disent très inquiets, qui étaient à 62 ou 63%. Et qui maintenant sont à 54-55%. Mais on a quand même plus de un chef d'entreprise dirigeant de TPE-PME qui se dit très inquiet sur son activité des conséquences de cette dissolution. Alors on a cherché à savoir ensuite, on a posé d'autres questions dans la dernière édition, on a mesuré ce risque franco-français avec d'autres risques. Le risque géopolitique, le risque Trump, enfin tous les risques que vous pouvez imaginer, le risque d'absence de demande, etc. Ce qui ressort en premier, c'est toujours le risque politique. Donc ce risque politique, il est avant tous les autres risques, et notamment avant le risque de la guerre commerciale, qui apparaît assez petit. Bon, après on se dira que les chefs d'entreprise français n'exportent pas beaucoup, et n'exportent pas beaucoup vers les États-Unis, mais il n'empêche que cette guerre commerciale fait quasiment pas peur aux dirigeants de TPE-PME, alors que le risque politique continue de le faire. Alors le mécanisme avec l'économie, corrélation n'est pas causalité, évidemment, mais on a quand même une corrélation apparente qui est très forte avec le taux d'investissement de ces entreprises qui s'est effondré depuis 2 ans. On était à plus de 56% début 2023, 56% des dirigeants de PME qui comptaient investir dans l'année. On n'est jamais à 100%. Hein. Le maximum, c'est 62% dans nos enquêtes avec Rexecode. Mais 56%, c'était plutôt un bon taux d'investissement. Et on est maintenant largement tous 50, on est à 44%. Dans le dernier baromètre, et donc c'est le plus bas depuis que ce baromètre existe, et je pense qu'il y a un lien évident avec cette préoccupation sur l'avenir, en se disant, mais finalement, est-ce que c'est le moment d'investir ? J'ai oublié de mentionner que parmi les risques, en numéro 2, c'est la peur des prélèvements, en fait. Les chefs d'entreprise redoutent que pour trouver l'équation budgétaire, il faille augmenter les impôts, et notamment les impôts pesant sur les entreprises. D'où les déclarations récentes, d'ailleurs, du gouvernement, qui sont, je dirais, une réponse à cette inquiétude qui ne s'exprime pas que par nos enquêtes. Donc moi, je pense qu'il y a effectivement une conséquence économique assez pernicieuse sur le manque de confiance dans l'avenir, cette espèce d'incertitude qui fait qu'on investit, on investit moins. Ça peut être que des reports, l'investissement, ça peut repartir très vite, mais pour le moment, on est plutôt dans une phase d'attentisme, qu'on a vu aussi d'ailleurs chez les ménages, cette espèce de comportement d'épargne de précaution.
Évidemment.
Tout le monde attend de savoir combien il va falloir payer pour retrouver l'équilibre.
Je vous ferai réagir sur le bilan un an après la dissolution. On va marquer une pause, mais ce que vous me dites là, Philippe Mutricy, c'est en fait, quand on voit l'investissement qui flanche, c'est le vrai moteur de l'activité. C'est ce qui génère de l'activité dans un pays. La consommation, c'est une sorte de gros édredon qui porte perpétuellement le système, mais le moteur d'activité, c'est l'investissement. Et évidemment, ça peut décrocher très vite. Donc on voit que oui, il y a eu un impact économique et qu'il est encore visible aujourd'hui. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. Vous me direz si vous êtes très confiant depuis qu'Amélie Monchalin a accordé une double page d'interview au JDD. Moi, j'ai lu ça hier, j'étais euphorique. Mais je me suis dit, bon, on va voir un peu ce qui va se passer derrière. Parce que je me souviens d'un certain Michel Barnier qui vous avait dit beaucoup de choses au début. Puis la copie à l'arrivée était un peu différente quand même. On marque une pause, à tout de suite.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.